Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Niger, une tentative de coup d'état militaire a été déjouée, a affirmé mercredi le gouvernement, 2 jours avant la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Yacouba Ouédraogo. La ministre française des armées Florence Parly est arrivée mercredi au Mali avec ses homologues estoniens et tchèques pour annoncer la pleine capacité de Takuba, unité de force spéciale européenne censée former l'armée malienne au combat face aux djihadistes. Outre les Tchèques et les Estoniens, des soldats suédois et italiens participent à l'opération. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté mercredi par la Cour pénale internationale des accusations de crimes contre l'humanité. Nani Talani s'est entretenu avec l'ancien premier ministre Pascal Affingessan du FPI, un parti créé par M. Gbagbo. Ce sera en seconde partie de cette édition. Une polémique portée par les principaux leaders d'opposition enflée mercredi au Nigeria, au lendemain du départ du président Muhammadu Buhari à Londres pour des raisons médicales, alors que le système de santé est défaillant et que des médecins menacent de se mettre en grève. Aidez-nous à ramener M. Buhari à la maison pour qu'il puisse faire son check-up médical dans l'un des hôpitaux magnifiques et performants qu'il a construit pour le Nigeria, ironisait l'opposant Omoyele Sowore, appelant les nombreux Nigérians de la diaspora, notamment les médecins, à occuper les hôpitaux de Londres. L'armée congolaise a annoncé mercredi avoir engagé des contacts avec les armées des pays voisins, dont le Rwanda, pour neutraliser la centaine de groupes armés locaux et étrangers actifs dans l'est de la République démocratique du Congo depuis près de 3 décennies. Dans leur communiqué, les FARDC expliquent qu'il s'agit d'arrêter des stratégies appropriées pour résoudre une fois pour toutes l'épineuse question de l'insécurité dans la sous-région des Grands Lacs africains. Le Brésil a connu en mars son mois le plus meurtrier depuis le début de la pandémie de COVID-19, avec plus de 66 000 morts. Tandis que la France et d'autres pays européens se résignent à passer un nouveau week-end de Pâques sous lourdes restrictions sanitaires. Établissements scolaires fermés, circulation limitée et commerce non essentiel fermé dans tout le pays à partir de lundi. Le Parlement français débat jeudi du durcissement des restrictions annoncées par le président Emmanuel Macron, qui a reconnu des erreurs dans la gestion de l'épidémie depuis un an. Le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace à 100% chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans, selon les résultats d'un essai clinique qu'ont annoncé les deux laboratoires qui espèrent que la vaccination de cette tranche d'âge débutera avant la prochaine rentrée scolaire. Le président Joe Biden a proposé mercredi d'investir quelque 2 000 milliards de dollars dans les infrastructures avec l'objectif affiché de créer des millions d'emplois, de tenir tête à la Chine et de lutter contre le changement climatique. Eric Marnica Manirakiza nous donnera les détails. La Chine a rejeté mercredi toute idée de sanctions envers la junte militaire birmane après un réquisitoire pourtant implacable de l'émissaire de l'ONU pour la Birmanie, qui a évoqué un risque sans précédent de guerre civile et un bain de sang imminent, en exhortant le Conseil de sécurité de l'ONU à agir. 4 personnes, dont un enfant, ont été tuées et 1/5 blessée mercredi soir par un homme qui a ouvert le feu dans un immeuble de bureau de la ville d'Orange, au sud de Los Angeles, a annoncé la police. Le tireur, dont les motivations restent inconnues à ce stade, a lui-même été blessé par balle lors de l'intervention des forces de l'ordre et transporté à l'hôpital. suite de nos informations, au Niger, on se pose toujours des questions sur cette tentative de coup d'État militaire que les autorités affirment avoir déjouée dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs militaires ont été arrêtés, mais les autorités donnent très peu de détails sur cette tentative de putsch qui intervient à quelques jours de l'investiture vendredi du nouveau président nigérien. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Le gouvernement a donné jusque-là peu de détails sur la tentative de coup d'État. Dans un communiqué, il a condamné ce qu'il qualifie d'acte lâche et rétrograde, voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit. Une enquête a été ouverte, mais les autorités affirment que plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État ont été interpellées et d'autres sont recherchées. Le cerveau présumé de ce putsch manqué est un officier de l'armée de l'air chargé de la sécurité de la base aérienne militaire de Niamey, activement recherché, a indiqué une source sécuritaire. Mais le communiqué du gouvernement ne donne pas l'identité des auteurs et les moyens dont ils disposaient. Mercredi, des riverains du quartier de la présidence à Niamey ont dit avoir été réveillés par des tirs. Cette tentative de coup d'État intervient avant l'investiture prévue demain du nouveau président élu Mohamed Bazoum, proche du chef de l'État sortant Mahamadou Issoufou. Son rival, l'ex-président Mahamane Ousmane, conteste les résultats du scrutin et revendique la victoire, appelant à des manifestations pacifiques dans tout le pays. Celle prévue mercredi à Niamey a été interdite. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit suivre avec une grande inquiétude la situation selon son porte-parole Stéphane Dujarric. Il appelle les forces armées à se conformer strictement à leurs obligations constitutionnelles.
Rencontre tripartite Éthiopie-Égypte-Soudan annoncée du 3 au 5 avril à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour résoudre le conflit autour du grand barrage de la Renaissance qu'Addis Abeba est en train de construire sur le Nil. Des détails avec Eddy Issango.
La tripartite devra se tenir dans la capitale congolaise de samedi à lundi prochain sous l'autorité du président Félix Tshisekedi qui dirige l'Union africaine depuis février dernier. Les ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie, de l'Égypte et du Soudan discuteront du conflit qui entoure les barrages de la GRD, la grande renaissance éthiopienne en construction sur le fleuve Nil qui se partage les quatre pays. Le barrage devrait devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, prendra également part à la discussion. L'Éthiopie s'est réjouie de ce que l'énergie hydroélectrique produite par les barrages sera vitale pour répondre aux besoins énergétiques de ses 110 millions d'habitants. L'Égypte, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et son eau potable, le considère comme une menace pour son approvisionnement en eau. Le Soudan craint de son côté que ses propres barrages ne soient endommagés si l'Éthiopie procède au remplissage du GRD avant qu'un accord ne soit conclu. Depuis mars, l'Égypte et le Soudan ont proposé à la RDC de diriger une médiation pour relancer les négociations sur le barrage controversé construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu.
Le président américain Joe Biden a proposé hier d'investir quelque 2000 milliards de dollars dans les infrastructures. Son objectif affiché est de créer 10 millions d'emplois, de tenir tête à la Chine et de lutter contre le changement climatique. Compte rendu d'Eric Manirakiza.
C'est ambitieux, c'est audacieux et nous pouvons le faire, a lancé le président Biden, soucieux de démontrer sa volonté réformatrice. Cela permettra de créer l'économie la plus résistante, la plus forte et la plus innovante du monde, a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de gagner face à la Chine. Ce sont des investissements que nous ne pouvons pas ne pas faire, a-t-il ajouté depuis Pittsburgh, en Pennsylvanie, où il avait lancé sa campagne visant à conquérir la Maison-Blanche il y a 2 ans. La première phase de son programme « Build Back Better » et « Reconstruire mieux » portait sur des investissements qui seraient étalés sur 8 ans et financés par une hausse de l'impôt sur les sociétés de 21% à 28%. Il ne s'agit pas de pénaliser qui que ce soit, a expliqué Joe Biden. Il a réaffirmé croire au capitalisme américain et n'avoir rien contre les millionnaires et les milliardaires. Son plan prévoit en particulier d'injecter 620 milliards de dollars dans les transports, permettant de moderniser plus de 32 000 km de routes et autoroutes et de réparer quelques 10 000 ponts à travers les États-Unis.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le géant français de l'énergie Total a suspendu ses opérations gazières dans le nord du Mozambique à la suite d'une attaque djihadiste près de son site qui a fait plusieurs morts. La remobilisation du projet qui était envisagée en début de semaine dernière est bien sûr désormais suspendue, a précisé la société dans un communiqué faisant référence à leur annonce d'une reprise des travaux dans la zone. L'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars pour chaque jour de fermeture du canal de Suez, tandis que la revue spécialisée Lloyd List estime que le porte-conteneur coincé a bloqué chaque jour l'équivalent d'environ 10 milliards de dollars de marchandises. Chaque jour d'immobilisation a entraîné, selon l'assureur Allianz, des pertes de 6 à 10 milliards de dollars. Les responsabilités pourraient se partager entre le propriétaire du navire, son opérateur et l'autorité du canal de Suez, qui est le propriétaire, l'administrateur et le gérant du canal de Suez en Égypte. Pour terminer, l'ONU appelle la communauté internationale à mettre en place un nouveau mécanisme pour soulager la dette des pays les plus pauvres, fragilisés par la pandémie. Ce mécanisme de dette devrait offrir davantage d'options, y compris des échanges, des rachats et des annulations de dettes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte aussi les pays du G20 à prolonger le moratoire sur les paiements des prêts des pays débiteurs en place depuis avril 2020 jusqu'en 2022 et à proposer cette solution aux pays à revenus intermédiaires qui le souhaitent.
Merci Nanit. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. La Confédération africaine de football a reporté à juin le match Sierra Leone-Bénin qui n'a pas pu se jouer mardi en raison d'un désaccord sur des tests positifs au Covid côté béninois, selon un porte-parole de la CAF. Cette rencontre, comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN, se jouera donc pendant la trêve internationale, sans précision de date, a confirmé la Fédération béninoise de football sur son compte Twitter. La rencontre décisive pour la qualification à la CAN a été annulée après que 5 cas positifs au COVID-19 parmi les écureuils ont été détectés au dernier moment. La Sierra Leone a besoin d'une victoire pour se qualifier, sinon c'est le Bénin qui ira à la CAN. L'Afrique du Sud a limogé son sélectionneur Molefi Nseki. Trois jours après la défaite des Bafana Bafana au Soudan 2-0 et leur échec à se qualifier pour la CAN 2021, Nseki, 51 ans, avait été nommé en août 2019 suite à la démission de Stuart Baxter, peu après avoir emmené l'Afrique du Sud en quart de finale de la CAN en Égypte. C'est la quatrième fois lors des 7 dernières éditions que les Sud-Africains, champions à domicile en 1996, ratent la qualification. L'ancienne star de l'équipe sud-africaine Benny McCarthy, qui entraîne actuellement le club de Premiership sud-africain, AmaZulu, remonté à la 5e place du championnat sous sa direction, a été mentionné parmi les possibles successeurs de Nseki, tout comme Eric Tinkler, milieu de terrain de l'équipe nationale en 1996. Balle au panier, la Basketball Africa League lancée par la NBA et la FIBA aura lieu du 16 au 30 mai prochain à Kigali, au Rwanda. Cette compétition est une initiative commune de la Fédération internationale et de la Ligue nord-américaine et vise à promouvoir le basket africain. Une opportunité de faire grandir le sport et le business, d'après son président Amadou Gallo Fall. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. Athlétisme, le marathon de Hambourg prévu en avril devra être organisé ailleurs à cause du confinement auquel la ville est soumise dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs. Ces derniers espèrent trouver un nouveau lieu à l'intérieur de l'Allemagne pour la course qui a été repoussée d'une semaine du 11 au 18 avril, a déclaré un de leurs porte-parole. La principale tête d'affiche attendue, le Kenya Eliud Kipchoge, détenteur du record du monde et champion olympique en titre, a demandé sur Twitter aux organisateurs de continuer à travailler pour trouver une bonne alternative.
Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Cour pénale internationale a confirmé hier l'acquittement prononcé en 2019 de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et un de ses proches, Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, reconnu non coupable de crimes contre l'humanité. Monsieur Gbagbo pourrait peut-être rentrer dans son pays après une décennie d'absence. Nanit Talani a joint à Abidjan Pascal Afinguessan, président du Front populaire ivoirien et ancien premier ministre de Laurent Gbagbo.
C'est un soulagement pour tous les Ivoiriens, pour tous les partisans du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé, que le droit ait triomphé, que la décision en première instance a été confirmée par la Cour d'appel. C'est un acte qui est à mettre à l'actif de la justice. Nous saluons cela, même si nous regrettons toutes ces années passées en détention, ces 10 ans de sacrifices, de mettre sur pour les concernés, pour leurs familles, pour leurs partisans. Et donc, notre vœu, c'est que les autorités ivoiriennes fassent de cette libération un élément tant fort pour enclencher un processus de réconciliation nationale. Ils prennent en compte tout le monde et donc ils prendront les dispositions afin que le président Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent rapidement en Côte d'Ivoire et qu'ensemble nous nous mettions autour d'une même table pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de la paix, de la stabilité de ce pays.
Nous savons que Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il sera libre de rentrer avec cette condamnation?
Logiquement, la décision de la justice internationale devrait effacer tout ce qui a été fait ici, qui, comme nous le savons tous, relève du contentieux politique. Et donc, si la Cour pénale internationale a acquitté le président Gbagbo et Charles Blé Goudé, ce n'est pas la justice nationale qui devrait prendre le contre-pied de cette décision et maintenir le pays dans un contexte de tension. Et personne ne comprendrait cela et ce serait ramé à contre-courant. Ce serait véritablement refuser la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt du régime ni dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire.
Quel impact l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé peut-il avoir sur la scène politique ivoirienne actuellement?
Je pense que leur retour sera un acte d'apaisement pour tous ceux qui souffrent de leur incarcération injuste, de leur absence prolongée de la Côte d'Ivoire. Ce sera un acte aussi de décrispation de l'environnement politique national et je pense que ce contexte d'apaisement et de décrispation devrait être une opportunité pour que nous nous engagions ensemble dans un processus de réconciliation nationale franche et sincère. Les cœurs vont être apaisés dans une certaine mesure et il faut construire à partir de ce contexte d'apaisement une paix durable dans notre pays.
La décision de la CPI offre-t-elle un espoir à tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire?
Oui, sa libération devrait se traduire aussi par la libération de tous ceux qui sont encore en prison du fait des événements de 2010-2011. Je veux parler des généraux de l'armée et tous les civils qui croupissent en prison à l'heure actuelle. De toute façon, cet acte majeur devrait même réjaillir sur d'autres personnalités qui ne sont pas proches du président Gbagbo, mais qui sont en prison pour diverses raisons politiques. Je veux parler des députés Loboyon qui sont en prison. Je veux parler des compagnons de M. Sorogium qui aussi sont en prison pour des raisons politiques. Logiquement, toutes ces personnes devraient pouvoir bénéficier de cette ère nouvelle qui s'ouvre avec l'acquittement définitif du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé.
Pascal Afinguessan, président du Front populaire ivoirien, au micro de Nanit Talani.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les leçons du rapport Duclert sur le rôle de la France au Rwanda pendant le génocide des Tutsis. Une commission composée de 14 historiens établit que la France porte des responsabilités accablantes dans ce drame qui a coûté la vie à au moins 800 000 personnes. Un rapport salué aussi à Paris qu'à Kigali où l'on parle d'un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France. Ce rapport fera-t-il bouger les lignes dans les poursuites contre les suspects du génocide? Aidera-t-il à réparer les relations entre les deux pays? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Quelques citoyens de la capitale nigérienne, Niamey, réagissent au micro de notre correspondant Abdulrazak Idrissa à l'annonce d'une tentative de coup d'État déjouée mercredi par le gouvernement à 48 heures de l'investiture du nouveau président nigérien.
Bon, vraiment, je n'y crois pas du tout. Non seulement on ne peut pas nous faire comprendre qu'on nous dit qu'on va renverser un régime avec seulement 3 pick-up. C'est vraiment insensé vu le dispositif qu'ils avaient pris. On sait que vraiment avec 3 pick-up là, c'est quasiment impossible. Donc c'est quelque chose que, comme d'habitude, c'est des faux coups d'État juste pour divertir le peuple.
Un coup d'État, une tentative de coup d'État à 2 jours de la fin du mandat du président sortant et à 2 jours de l'investiture d'un nouveau président élu ne se justifie pas. Parce que le président qui sort, quel que soit ce qu'on lui reproche, il va partir. Dans tous les cas, dans 2 jours. Et deuxièmement, le président qui rentre, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Lui qui n'est même pas installé sur les rênes du pouvoir pour essayer de les renverser. Et nous sommes très fiers que la garde présidentielle et les autres forces de défense et de sécurité soient restées fidèles et loyales à la République. Et nous souhaitons que tous les auteurs, co-auteurs et complices de cette tentative de coup d'État, où qu'il soit recherché et qu'il soit traduit devant les tribunaux. Nous sommes vraiment très peinés, nous sommes écœurés par cette attitude de constater que certains de nos concitoyens n'ont pas compris que l'ère du coup d'État est révolue en Afrique et au Niger.
On ne fait pas un coup d'État comme ça quand même. On ne fait pas un coup d'État avec 3 véhicules. On ne fait pas un coup d'État comme ça. Si tel est ce que les gens disent est vrai, ça relèverait plus de la folie que d'une tentative de coup d'État. Et moi, je suis sceptique. Et moi, je fais la corrélation avec une stratégie dans le sens de stopper net les manifestations et d'investir le nouveau président dans le calme. Par exemple, avec, vous avez vu, le matin, pratiquement personne n'entre, personne au sol de Niamey, et il y avait même des chars qui ont été vus. Donc, je crois que... Et pourtant, le régime a continué ses activités correctes. Si réellement c'est une véritable tentative de coup d'État, je croyais que le comportement aurait dû être autrement.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, à 10 jours de l'élection présidentielle contestée par une partie de l'opposition, les mouvements citoyens et de la société civile ont remarqué un désintérêt chez certains électeurs, dont beaucoup tardent à retirer leurs cartes. Une situation qui inquiète les agents distributeurs dans la capitale. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, fait le point.
Lancé le 26 mars, le processus de retrait des cartes d'électeurs est toujours timide dans la capitale N'Djamena, alors que les candidats en lice continuent leur campagne. Les agents distributeurs déplorent le manque d'intérêt que la population accorde à cette élection.
Moi, c'est Ngarmardé Roland. Je suis agent distributeur de cartes électeurs Amtoukoui Karesset. On ne sait pas dans les jours à venir, il y aura d'engouement, mais depuis hier, il n'y a pas assez de gens qui sont venus chercher leurs cartes. Il y a des gens, même on trouve leurs cartes, on les appelle de venir chercher, ils disent que non, ça ne les intéresse pas. Apparemment, la population n'est pas très très contente pour venir chercher les cartes. Mais par contre, il y a des gens qui viennent et qui retrouvent peut-être la carte des gens qu'ils connaissent. On leur donne ces cartes, mais on prend leur numéro et leur nom. Parce que les gens ne s'intéressent pas, ils ne viennent pas chercher leurs cartes. Et peut-être des gens qui les connaissent, là, on juste pour ça, on ne sait pas s'ils auront leurs cartes ou pas.
Si dans certains quartiers, les électeurs ne se mobilisent pas pour aller retirer leurs cartes, d'autres le font aisément et avec beaucoup d'enthousiasme. Pour cet agent distributeur, le processus se déroule normalement dans sa zone de responsabilité.
Moi, c'est Mouni Batouré, du quartier Chiagoua, ici, carré 19. Effectivement, les gens viennent régulièrement retirer les cartes. Les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport au mélange des cartes. Nous sommes obligés d'arranger quelquefois le nom se mélange, c'est ça le problème.
On met le prénom à la place du nom et le nom à la place du prénom. Il y a ni le nom ni le prénom, juste le nom du père, la mère, parfois même juste peut-être le lieu de naissance. Donc il y a ces erreurs techniques, c'est depuis le niveau de la CENI.
Certains électeurs qui tiennent à exercer leurs droits civiques le moment opportun cherchent désespérément leur carte. Ils dénoncent ce dysfonctionnement.
On est recensé ici en Tukwide et dans tout le lieu des cartes, on a fouillé des trois côtés, il n'y a même pas de cartes. Et entre temps, on a vu nos récépissés, les cartes photos, mais finalement les cartes d'électeurs ne sont pas sorties.
Oui, j'ai déjà eu à retirer mes cartes hier et en cherchant les cartes, c'est un peu difficile de trouver aussi les cartes parmi les autres. Il y a certaines où on voit la photo de la personne, mais il n'y a pas de nom.
Un chef de carré qui requiert l'anonymat affirme que lui et deux autres chefs de carré n'ont pas eu encore les cartes pour distribuer aux électeurs, alors qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour aller à cette élection.
Actuellement, nous n'avons pas reçu la carte là pour distribuer les gens. Ils viennent beaucoup, mais ils ne trouvent même pas. Et est-ce que c'est nous qu'on fait la carte ou on ne sait pas? Ils sont en train de nous menacer partout. Comme et le CENI n'a pas amené tout. Ce n'est pas de ma faute. Aller en désordre comme ça, là, ce n'est pas normal. Moi, je suis le chef de carré. Et personne ne va venir pour m'insulter partout comme ça, là, ce n'est pas bien.
Contacté par VOA Afrique à travers son service de communication, le président de la CENI, Koudi Mahamad Bam, informe que les cartes sont imprimées à l'extérieur et qu'elles doivent arriver par vague à cause du tonnage. Et à l'heure actuelle, les restes de ces cartes sont déjà arrivés au pays. Il assure que tout le monde sera servi avant les élections. André Kodumadjigar Ndjamena pour VOA Afrique.
En sport, la nouvelle date de la tenue de la Basketball Africa League, entendez Ligue africaine de basketball, est connue. La toute première édition de cette compétition aura lieu du 16 au 30 mai prochain à la Kigali Arena au Rwanda, d'après l'annonce faite par la Fédération internationale de basketball. Yakuba Ouedraogo.
Dakar, malchanceuse, lancée en mars 2020 à Chicago aux États-Unis, puis prévue pour débuter dans la capitale sénégalaise dans le même mois, la Basketball Africa League ne se jouera plus à Dakar. Reportée à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, la toute première édition de cette compétition se tiendra à la Kigali Arena au Rwanda. Pourquoi le choix de la capitale rwandaise? Le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall, explique.
Le plus important, c'était de trouver un endroit où nous sentions que les conditions étaient réunies au niveau sanitaire, là où la pandémie de coronavirus avait été bien gérée, et c'est pour cela que nous avons choisi Kigali, un site unique où nous allons réunir les 12 équipes.
Ces 12 équipes provenant de 12 pays différents sont les douanes du Sénégal, la police du Mali, Ravens Hoopers du Nigeria, FAP du Cameroun, Petro Luanda de l'Angola, Ferroviaro Maputo du Mozambique, GN de Madagascar, Patriotes du Rwanda, JSP de l'Algérie, Zamalek d'Égypte, Salé du Maroc et Monastir de la Tunisie. L'objectif de cette compétition, initiée par la NBA et la FIBA, est d'offrir une vitrine aux joueurs d'élite de tout le continent pour qu'ils puissent mettre en valeur leurs talents. Cela va inspirer les fans de la balle au panier et faire du basket un moteur de croissance économique en Afrique. Foi du président de la balle, Amadou Gallo Fall.
D'abord, on essaie de créer un intérêt, de mettre ce sport en lumière et de créer une base de supporters. Bien sûr, en ajoutant 1,2 milliard d'Africains à l'incroyable talent athlétique qui existe ici, nous voyons une opportunité incroyable de développer notre sport, d'abord et ensuite notre business.
Quoi de plus normal que de s'impatienter?
J'attends avec impatience le lancement de cette ligue historique qui va mettre en avant les talents africains dans un environnement sain et sécurisé, qui va produire un basket de qualité et qui sera diffusé au plan panafricain et à l'international.
Pour rappel, les matchs se disputeront du 16 au 30 mai prochain à la Kigali Arena au Rwanda, donc dans une bulle comme celle qui a accueilli les playoffs de la NBA la saison écoulée.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.